Madame Julien, quelle musique avez-vous choisie aujourd'hui pour continuer à évoquer le XVIIIe siècle?
Nous allons nous retrouver cette fois en compagnie de Jean-Marie Leclerc. C'est encore un musicien français et il est tout à fait contemporain de Rameau, puisqu'il est mort la même année. Ce fut un très grand maître du violon. Il a laissé une œuvre d'une extrême élégance. Mais j'ai préféré une pièce pour hautbois, le concerto pour hautbois en une majeure. Nous écouterons d'abord un extrait du deuxième mouvement, puis plusieurs extraits du premier mouvement.
Monsieur Julien, on sent qu'au XVIIIe siècle, une mentalité nouvelle est en train de naître.
Oui, on perçoit en effet un esprit nouveau qui se manifeste par une attitude de contestation, un besoin d'explication. Et tout cela se manifeste ici et là dans les documents de la vie communale. On perçoit nettement à travers la lecture de ces documents que le temps de l'obéissance aveugle au pouvoir absolu et de la résignation à l'état de choses existant est révolu. En premier lieu, en ce qui regarde la religion, on sait que la révocation de l'édit de Nantes en 1685, en interdisant rigoureusement le culte protestant, avait, par voie de conséquence, établi le catholicisme comme religion d'État. Dès lors, la toute-puissance de l'Église catholique se manifeste à travers les nombreux édits, ordonnances, règlements et mandements qui imposent ou veulent imposer à chaque sujet obéissance et soumission aux lois de l'Église. Ce sera l'obligation d'aller à la messe, l'interdiction de travailler le dimanche, défense de fréquenter les cabarets ou de s'adonner aux jeux pendant sur les places publiques pendant les offices, obligation de faire baptiser les nouveau-nés, défense de manger de la viande le vendredi, pour ne citer que les plus importantes. Passées les premières années où la stupeur et la peur et les représailles terribles condamnent les anciens protestants, qu'on appelait les nouveaux convertis, à une prudente obéissance, on verra se multiplier les actes de désobéissance, et cela malgré des mesures répressives qui seront encore prises sous le règne de Louis XV, et ça il faut bien le dire, comme par exemple ces trois anciens protestants saint-antoninois arrêtés et conduits en prison à Lourdes en 1723 pour avoir assisté à un prêche clandestin aux environs de Caussade, où, nous dit-on, s'étaient assemblés 4 000 religionnaires. Ce sera beaucoup plus tard, et c'est cela qui est étonnant, en 1761, l'arrestation du pasteur Rochette et des trois gentilshommes verriers, les trois frères Grenier, qui seront exécutés à Toulouse sur la place des Salins.
Quel est leur délit aux trois frères Grenier?
Les trois frères Grenier ont été complices. Ils ont hébergé à Saint-Antonin le pasteur Rochette, pasteur interdit de séjour, bien entendu, qui était entré clandestinement dans le royaume pour entretenir la foi et la religion de Calvin parmi les nombreux anciens protestants qui, quoi qu'on en ait dit, avaient subsisté jusque-là. Et alors, ils ont été complices et on ne plaisantait pas, même sous Louis XV et en 1761. Mais il faut dire que ça se situe à peu près à l'époque de l'affaire Calas. Époque, tout le monde sait ça, l'affaire Calas, protestant de Toulouse, que Voltaire a essayé de défendre et de réhabiliter.
Vous nous avez dit qu'ils étaient gentilshommes verriers.
Oui.
C'est étrange, cette association.
Ah voilà, les verriers étaient nombreux dans la région. Ceux-ci, les gentilshommes, les trois frères Grenier dont je viens de parler, venaient de l'Ariège, cela. Mais il y avait aussi des verriers appelés Greniers qui fabriquaient du verre à la Grésigne. Tout le monde le sait, il y a d'anciennes verreries à la Grésigne et notre musée conserve des échantillons de verre de la Grésigne. Bon, eh bien, c'était le seul métier manuel qui, à partir du XVIe siècle, avait conféré à celui qui l'exerçait une sorte de noblesse. Et ils avaient eu le droit de prendre le titre de gentilhomme. Ils n'étaient pas, si l'on peut dire, des gens du vulgaire. Hein? Ce n'étaient pas des manants. Ce n'étaient pas des gens du tiers-état. Ils étaient anoblis ipso facto, ça veut dire par le fait même qu'il fabriquait le verre, cette denrée merveilleuse qui s'est répandue dans la vie courante et la vie industrielle à partir du XVIe siècle. C'est à partir de 1730 que se manifestent surtout les premières contraventions aux édits et règlements. Elles vont dès lors devenir pratiques courantes et si fréquentes que les consuls devront décider de se réunir régulièrement en conseil de police tous les jeudis de chaque semaine pour juger et châtier les contrevenants. N'oublions pas que les consuls avait pouvoir de justice, basse justice certes, mais pouvoir de justice. C'est toujours sur l'intervention ou sur la réquisition du prieur-curé que les contraventions sont constatées, comme en témoigne ce procès-verbal choisi parmi tant d'autres du 28 mai 1731. Alors ça c'est un jugement proposé par le dit sieur Philippi, premier consul, c'est lui qui dirige le débat, la cour de justice, qu'ayant été requis par monsieur le curé le 24e du courant, jour de la fête Dieu, sur l'heure de vêpres, d'aller avec lui visiter les promenades de cette ville pour voir si l'on y jouait pendant l'office, le dit sieur Philippi et le dit sieur curé, accompagnés de Jean Gorce, valet consulaire, on se fait suivre de la force publique, vous voyez, aurait trouvé aux estafés plusieurs jeunes gens qui jouaient aux cartes. Savoir le fils de Delrieux, chapelier, le fils cadet de Dozou, Toutas, cordonnier, le fils aîné de Pierre Delmas, dit La Plate, Jean Cavalier, Larousse, le fils d'Isaac Prunet, le fils de Fournier Cellier, le fils aîné de Roussennac Mirande, le fils d'Abraham Fraille, c'est teinturier, le fils cadet de Prunet, le fils de Jacques Cadenne Brassier, le fils de Jacob Cadenne, le fils de Pierre Roussennac Grand Gousier, le fils cadet de Loupiac et autres, toute une bande quoi. Alors on les fait arrêter et conduire en prison séance tenante, où ils resteront 4 jours les pauvres, jusqu'à leur condamnation, en conseil de police, chacun a 20 sous d'amende. Vous direz, c'est pas beaucoup. Eh si, c'est 2 jours de travail, c'est le prix de 2 journées de travail. C'est 20 sous d'amende au profit des pauvres, il faut bien le reconnaître. Là, les consuls ne se mettent pas l'argent dans la poche. On reconnaît dans cette liste si vous avez bien écouté, des noms de protestants, certains même encore vivants dans notre ville aujourd'hui. La leçon ainsi donnée n'empêchera pas les récidives des mêmes et d'autres, que l'on surprendra soit au cabaret, soit à faire du tapage dans les rues après 10 heures, les consuls, soit à insulter les bourgeois tout simplement, ou soit à manquer de respect à monsieur le prieur-curé. Les consuls à la longue se lasseront de jouer aux policiers. Tout le monde s'en lasse, ça n'amuse personne. Et surtout de jouer aux policiers sur ordre de monsieur le curé. Et le conseil de police, comme l'exprime cette sentence du 9 juin 1739, traduit bien cette lassitude.
Donc, ce jour-là, monsieur le curé s'est plaint que vendredi dernier, étant allé dans la maison de Jean Carat cabaretier, il trouva à table le dit Carat et Paul de Just et Pierre Rivière orfèvre qui mangeaient de la viande.
Le curé somme alors le premier consul Brugière de constater le délit, ce que le premier consul fait. On fait comparaître les coupables. L'aubergiste essaie de se tirer d'affaire en niant avoir mangé, lui, de la viande qui était du foie, nous dit-on. Cette viande, affirme-t-il, avait été apportée toute cuite chez lui par les deux clients qui, eux, évidemment, ne peuvent nier avoir été à table assis devant du foie grillé. Le procureur du roi, Berry, prononce son réquisitoire. Il est sévère contre cette contravention manifeste, dit-il, au canon de l'Église. Et il réclame 30 livres d'amende contre chacun des trois coupables, car Carat ne saurait être mis hors de cause. C'est énorme, 30 livres. Ah, cette fois, les juges et leurs assesseurs ne suivent pas. On dit en effet, toujours dans le même procès-verbal,
la police ayant délibéré et été aux opinions, à la pluralité des voix de 6 contre 5, que les dits Carat, De Just et Rivière sont condamnés chacun en 3 livres d'amende.
Vous voyez que le débat a été serré, 6 voix contre 5. Malgré les insistances du procureur du roi et sans doute du prieur curé, il y a eu quand même une majorité pour trouver qu'on y allait un peu trop fort. Et on a bien rabaissé l'amende. De 30, on est passé à 3. Cette modération est bien le signe que quelque chose a changé maintenant et que c'en est fini du temps de l'absolutisme, qu'on ose s'opposer, se rebeller même, tel cet Antoine Rosenna qui a commis ce qui, des années auparavant, ont été imputés à crime. Ceci se passe le 15 janvier 1766. Maître Antoine Molinier, prêtre prébendé et vicaire, revenait de Murel, porter le Saint Viatique à un malade. Ben, il n'a pas pu l'administrer d'ailleurs parce que le malade était mort quand il est arrivé. Il revient et il rencontre un chemin, là-bas, du côté de Maillon-Long, plusieurs personnes, dit-il, de la RPR. Il ne les nomme pas. Mais en disant ça, il reconnaît qu'il existe des protestants. Il leur ordonne de se mettre à genoux, dit-il, ce qu'ils firent. Il poursuit son chemin pour rentrer à la ville et il rencontre, à Pongette, Antoine Rosenac Brassier,
qui accosta le sieur Molinier portant le Saint Viatique. Le dit sieur Molinier lui dit, pendant 3 fois, de se mettre à genoux et d'adorer le Saint-Sacrement. Ce que le dit Roussennac refusa par un silence obstiné et continua de marcher avec sa monture à côté du dit Molinier, qui prit des témoins à l'irrévérence du dit Roussennac.
Cette monture, c'était un âne. Vous imaginez d'ici la scène. Là, vraiment, l'offense est trop grande. C'est un scandale atroce, dit le procureur du roi. et le pauvre Roussennac sera condamné à 6 livres d'amende. Et ce n'est pas tout. Et à payer en outre un cierge de cire d'une demi-livre qui sera allumé par 3 dimanches consécutifs devant l'autel du Saint-Sacrement. Il est vrai qu'il n'était que brassier, le pauvre Antoine Roussennac. Mais enfin, ce texte nous révèle que même l'Église admet dès le milieu du XVIIIe siècle qu'elle a échoué dans son entreprise de conversion des anciens protestants. Le culte protestant en effet revit. Les protestants existent en grand nombre et se manifestent en dépit de tout. Ce qui explique la décision de Louis XVI de les autoriser en 1787 à avoir un état civil. C'est-à-dire que dès 1787, en vertu de cet édit royal, le curé de la paroisse enregistrera les enfants qui sont nés dans les familles protestantes. Et on est très étonné quand on lit ces actes d'enregistrement. Il y a des protestants qui déclarent avoir 5 enfants dont ils donnent les dates de naissance. Donc 5 enfants qui n'avaient aucun état civil et qui n'existaient pas. Les protestants seront autorisés aussi à avoir un temple officiel, à avoir leur cimetière. L'esprit de tolérance, grâce aux philosophes, aux écrivains, a quand même triomphé au XVIIIe siècle. Les idées nouvelles impulsées de Paris surtout ont fait leur chemin grâce aux écrits, aux gazettes, aux almanachs, aux routes, aux échanges qu'elles permettent.
Vous nous parliez du temple et du cimetière protestant. Oui. Est-ce qu'on sait où ils étaient situés à Saint-Antonin ?
Oui, ce premier temple, donc, après la période de répression, se situe, il existe toujours, c'est la maison de M. André Vignol qui fait ici une chronique de Languedoc et qui a une très belle apparence puisqu'il y a une belle façade. Et nous savons d'ailleurs que ce temple était assez fréquenté par un livre dont je parlerai à la prochaine émission qui nous dit que au moment du culte, les protestants se séparaient des catholiques qui allaient à l'église, eux allaient à leur temple. Et ce temple restera celui des protestants jusque vers 1840 où sera construit le nouveau temple qui se trouve, comme vous le savez, au quartier des Carmes. Et le cimetière alors ? Ah oui, le cimetière, ça va étonner beaucoup de monde, mais enfin, il était exactement à l'emplacement où se trouve maintenant la maison de Monsieur Liu, le restaurant du Gaspacho, la maison de Madame Serre, la maison de Madame Cuc, et jusque, je pense, à la maison de Monsieur Martiel. Vous voyez qu'ils sont dans un lieu consacré, si on peut dire. Oui, les idées nouvelles impulsées de Paris arrivent jusqu'à Saint-Antonin. Et un détail curieux le prouve. En 1753, apparaît pour la première fois sur le registre des délibérations du Conseil de ville une curieuse signature. C'est celle de Ricard, un notaire. À ce moment-là, on signait par un paraphe, très beau d'ailleurs. Hein. Mais voilà que Ricard en 1753, fait précéder son paraphe des trois points maçonniques, pense son nom. Un peu plus tard, quelques années après, en 1758, c'est le riche marchand Alauzé qui, lui aussi, fera précéder sa signature de trois points. Les Alauzé, soit dit en passant, étaient des négociants d'un haut niveau qui avaient un entrepôt à Bordeaux pour le commerce avec l'Amérique, d'où nous venait le sucre, le café, le tabac. Et ce curieux bois rouge qu'on utilisait beaucoup pour la teinture, appelé Brésil, et qui a donné son nom à ce pays, le Brésil. Nous ne savons pas s'il existait une loge maçonnique à Saint-Antonin, mais ces signatures vont aller se multipliant jusqu'à la Révolution et pendant les premières années de la Révolution. On rencontre même des religieux signant ainsi, et en particulier un chanoine du chapitre, Lassos, qui deviendra curé constitutionnel de Saint-Antonin et qui fait précéder sa signature des trois points. Il n'est pas douteux, à mon sens, que les idées de la franc-maçonnerie ont fait leur chemin et contribué pour une bonne part à l'évolution des mentalités vers plus de liberté, sinon de justice.
C'est étrange, ces trois points. Bon, ils représentent certainement un symbole dans la franc-maçonnerie, oui. Mais par leur manque de discrétion, ils contrastent quand même avec le secret qui se rattache autour de la franc-maçonnerie.
Oui, mais je pense que la franc-maçonnerie, que je connais très peu, je l'avoue tout de suite, mais que la franc-maçonnerie au XVIIIe n'avait pas le caractère de société secrète qu'elle avait pu prendre pendant le XIXe ou au début du XXe. Je pense que c'était ouvertement qu'on était franc-maçon, puisque le duc Philippe d'Orléans était lui-même franc-maçon, et que les francs-maçons, suivant l'exemple venu d'Angleterre, se recrutaient essentiellement parmi les classes très éclairées de la société, parmi les nobles, parmi les grands bourgeois. Donc il n'y avait aucun scandale. Enfin, c'est peut-être même une sorte de distinction qu'on se donnait. Ce n'était pas une marque d'infamie, je veux dire, voilà, à cette époque-là.
Vous nous disiez qu'il y avait des religieux francs-maçons.
Oui.
Et pourtant, l'Église combat la franc-maçonnerie.
Enfin, l'Église telle que nous l'avons connue, ou plutôt telle que nous l'a fait connaître le XIXe siècle. N'oublions pas que l'Église du XVIIIe n'a rien à voir avec l'Église du XIXe. L'Église du XIXe, nous le verrons plus tard peut-être si nous continuons ces émissions, deviendra une Église autoritaire, fortement hiérarchisée, contraignante pour ses fidèles, et privatrice de liberté, il ne faut pas avoir peur de l'avouer. Celle du XVIIIe est une Église, je ne dirais pas libérale, on pourrait presque dire libertine. Hein? De nombreux, nous le verrons d'ailleurs à la fin de cette émission, de nombreux ecclésiastiques, évidemment d'un certain niveau, ceux qui sont abbés dans les abbayes, chanoines, etc., le clergé de haut niveau n'a pas du tout cette austérité des vies que l'on imagine. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les grandes abbayes de notre région, comme Beaulieu, et même le chapitre Saint-Antonin, comme Logdieu, perdent la plus grande partie de leurs moines, qui quittent l'habit monastique pour mener une vie beaucoup plus agréable.
Thank you.
Le 1er janvier 1779 et devrait être pour nous responsable d'associations culturelles de Saint-Antonin, une date mémorable entre toutes les dates. Nous devrions tous connaître cette date. Pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là et cette année-là, en effet, qu'a été créée ici, à Saint-Antonin, la première, toute première de nos associations qui s'intitulait Société littéraire et politique et dont l'article 1er des statuts stipule « La société ne sera composée que des principaux citoyens de cette ville, amateurs des sciences, inscriptions et belles lettres. » N'est-ce pas là un fait révélateur d'un nouvel état d'esprit ? Des principaux citoyens, du moins, d'une ville qui, on le sent bien, se veut une petite capitale. N'est-ce pas aussi le signe d'une libéralisation incontestable, puisque le droit de réunion est accepté, sinon reconnu? N'est-ce pas aussi le signe que notre ville, prenant exemple sur ce qui se fait à Paris, s'intègre tout à fait dans le courant national? Le temps est révolu du particularisme local, et cela me paraît important. La lecture des statuts que nous possédons, heureusement, décidément nos archives ont des trésors. La lecture des statuts de cette association nous apprend encore que la séance s'ouvrira tous les jours à midi et se terminera au plus tard à 10h du soir. On voit tout de suite qui pouvait être membre de cette association. Il y fallait vraiment des citoyens d'une certaine classe en mesure de payer 12 livres de cotisation annuelle et de n'avoir rien à faire toutes les après-midi. 12 livres, c'est énorme. Si vous savez que la journée de travail d'un excellent artisan était payée une livre, vous voyez, 12 livres, c'est 12 journées d'ouvriers très spécialisés. Le but essentiel de l'association, et c'est ça qui est intéressant, était d'acquérir des ouvrages, des livres, parmi lesquels sans doute l'encyclopédie de Diderot, et des gazettes. On lisait donc, on commentait les livres et les gazettes, on discutait les nouvelles apportées par le courrier, on se lisait des épigrammes, des sonnets, des pièces en vers, et on jouait aussi aux cartes et autres jeux de hasard. Mais en dehors de la chambre de réunion, de la chambre des séances, et contre paiement au trésorier de 12 sous par jeu de cartes entière ou de piquet, et un sou seulement par partie, de tous les autres jeux, dit-on, de commerce. Qu'est-ce que c'était que ces jeux de commerce ? Ben, c'était des sortes de poker, mais c'était pas le poker, encore c'était pas à la mode. C'est des sortes de loteries, où quelquefois, les gens arrivaient à se ruiner. Dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, là, du Chevalier de Fontvieille, il nous raconte que, justement, à Lauzet, a perdu, comme ça, dans une partie, 1000 livres. Parce qu'on doublait les pertes. Qui tout double, qui tout double. Voilà ce qu'on faisait. Mais l'argent qui provenait de tout ça, ça devait être versé au profit de la société. C'est ça qui était intéressant et qui rend la société sympathique. On y faisait sans doute aussi de la musique et peut-être du théâtre. Alors là, la question se pose, où se tenaient les séances ? Je me suis interrogé. Eh bien, j'en arrive à la conclusion qu'elle devait se tenir dans une pièce de la maison de Monsieur le Comte de Lastic Saint-Jal, dont la signature figure en première ligne des adhérents. Le comte de Lastic qui, après son alliance récente avec la famille La Capelle-Casse, était venu s'installer à Saint-Antonin depuis peu. C'était la famille noble la plus en vue et la plus considérée de la ville. Mais à la réflexion aussi, je me demande si cette chambre des séances de cette société n'aurait pas pu se trouver tout simplement dans le couvent des Génovéfains, c'est-à-dire la mairie actuelle où il y avait des salles en quantité. Et je dis ça pourquoi ? Parce que l'acte de fondation de la société mentionne 35 membres dont il n'est pas sans intérêt de donner quelques noms. Sur ces 35 membres, il y a 15 ecclésiastiques. 15 ecclésiastiques qui se recrutent presque tous parmi les chanoines, les prébendés du chapitre, parce qu'il y avait deux catégories chez les religieux, les chanoines en titre et puis les prébendés, ce serait trop long d'expliquer. Il y a deux carmes, il y a un capucin, il y a un cordelier, et il y a l'aumônier des dames de Costejean. Donc voilà tous les religieux, vous voyez. Et ils sont 15 sur 37. Alors il est possible que ça se tienne. Et parmi les autres personnalités, voici en premier lieu monsieur le comte de Lastic Saint-Jal. Alors une chose curieuse sur notre document, le mot comte a été barré. Ce qui laisserait supposer que cette société a survécu encore pendant la Révolution, et comme à ce moment-là, pendant la Révolution, les titres nobiliaires ne se portaient plus, on a barré le mot comte. C'est touchant quand même. On y trouve encore Thomas Pomiez, avocat, Guillaume Lacombe, médecin, un ancêtre de la famille de Vassal, le fondateur, si on peut dire, de la famille de Vassal actuelle, David Alauzet, capitaine de navire, c'est celui dont je parlais avec les trois points. Il y avait encore Dupin de Saint-André, conseiller du roi. Il y avait Hugues Alauzet, fils de l'autre. Il y avait Bromé, avocat. Il y avait Sarrem-Jeanne, capitaine de navire. Attention, capitaine de navire, ça ne veut pas dire qu'il était marin. Ça veut dire qu'il avait des bateaux qui faisaient le commerce sur l'océan Atlantique vers les îles. Il y avait encore le chevalier de Saint-Marie. Il y avait encore Perret, bourgeois. Il y avait encore Sarrem-Jeanne, orfèvre. Il y avait Bouldoir, bourgeois. Il y avait Philippi, notaire et avocat. Enfin, voyez le niveau des adhérents de la société.
Vous nous disiez, M. Julien, qu'il y avait 35 membres à la fondation de cette société, oui, qui, pour le moins qu'on puisse dire, n'était pas très, très ouverte.
Non.
Sait-on combien de membres elle comptait par la suite ?
Bien que, comme toutes les sociétés fondées à cette époque, à l'image de l'Académie française, de la prestigieuse Académie française fondée par Richelieu, le nombre de membres se limitait à 40. Et quand c'était 40, c'était arrêté. On ne pouvait plus entrer dans la société. Et d'ailleurs, ici, dans notre société littéraire de Saint-Antonin et politique de Saint-Antonin, on acceptera encore au mois de septembre 3 membres, et puis au mois de janvier suivant, 3 autres membres, et puis je n'ai plus trouvé trace d'autres adhésions. Mais enfin, on se limitait toujours à 40, pour copier, toujours pareil, pour copier ce qui se faisait à Paris. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'il existe encore, à notre époque, des sociétés fondées à cette époque-là, comme l'Académie de Montauban, dont le nombre de membres, actuellement, est toujours fixé à 40. Au point que, pour y entrer, il faut que quelqu'un meure. Et à ce moment-là, on peut y entrer. Cette bonne société saint-antoninoise cultive le libertinage, le franc-parler et l'esprit critique. Toutes choses caractéristiques d'une mentalité nouvelle qui prépare la révolution et que traduisent bien Ces quelques strophes extraites d'une parodie des statuts de notre société littéraire et politique, écrite par l'un des membres. Je ne lis que trois strophes, mais écoutez bien. Celui qui veut être compté dans notre confraternité sera ni trop folle, ni trop sage. Dans le milieu, la vertu gît. Un spirituel badinage produit la joie et la nourrit. Entre nous, jamais de débat sur les affaires de l'État. Tel sur cette matière utile qui, pour son indiscrétion, de son repas à la Bastille va faire la digestion. Sur la bulle unigenitus, entre les confrères, motus. Sur nous, ne donnons point à mordre. Le pape est infaillible ou non, mais le clergé de second ordre ne saurait faire de canon.